Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape a reçu lundi en audience plusieurs personnalités. Nous reviendrons sur ces rencontres qui ont marqué les activités du Saint-Père dans l'actualité de l'Église de cette édition de notre programme. Pour l'actualité de l'Église en Afrique, nous nous rendrons en Côte d'Ivoire et au Cameroun. L'actualité sociale et politique africaine nous conduira notamment en République démocratique du Congo, au Kenya, en Libye. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Dans la journée de lundi, le pape a reçu successivement en audience Mgr Paolo Piccolini, vice-directeur gestionnaire administratif des musées du Vatican. Ensuite, Monsieur Jorge Eduardo Roman Mollet, nouvel ambassadeur du Pérou près les Saint-Sièges, venu lui présenter ses lettres de créance. François s'est aussi entretenu avec Mgr Charles Daniel Balvo, nonce apostolique en République tchèque, ensuite avec Mgr Giovanni Daniello, nonce apostolique en Russie et en Ouzbékistan. Le Saint-Père a en outre reçu en audience lundi Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie. Dans la salle Clémentine, le pape a reçu les participants à l'initiative Christmas Contest qui donne aux jeunes ayant des talents musicaux la possibilité d'exprimer leur créativité dans la composition des chants et particulièrement les chants de Noël. Le Saint-Père a particulièrement invité les jeunes à découvrir la beauté de Noël qui n'est ni superficielle, ni aliénante, ni évasive, mais une fête et une beauté qui transparaît dans le partage des petits gestes concrets d'amour, une beauté qui élargit les cœurs, l'ouvre à la gratuité, au don de soi et peut aussi générer les dynamiques culturelles, sociales et éducatives. Les concours des chants Christmas Contest a été organisé par la Fondation Gravissimum Educationis et l'émission Don Bosco Valdocco. Le jeudi prochain 25 novembre aura lieu la présentation du message du pape François pour la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Cette journée est célébrée le 3 décembre. La présentation aura lieu dans la salle des presses du Saint-Siège. Toujours lundi, le pape a eu à Rome une rencontre avec les évêques de la conférence épiscopale italienne. Le Saint-Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse métropolitain de Brazzaville en République du Congo, présenté par Mgr Anatole Milandou. Pour le succéder, le pape a nommé Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouaou, qui était jusqu'ici archevêque coadjuteur de Brazzaville. Notons que Mgr Anatole Milandou était archevêque de Brazzaville de 2001 jusqu'à sa renonciation. Les évêques de l'Assemblée ecclésiale de l'Amérique latine et des Caraïbes ont ouvert lundi les travaux de leur Assemblée générale qui se tient à Mexico, au Mexique. Les travaux ont été inaugurés par le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Dans son mot, il a exhorté les participants à l'écoute de l'Esprit-Saint dans une attitude de prière pour avoir un cœur ouvert aussi à l'écoute des autres, afin de pouvoir cheminer ensemble dans un esprit de synodalité. L'humanité a célébré le dimanche 21 novembre la Journée mondiale de la pêche. À cette occasion, une conférence internationale est organisée à Rome par les dicastères pour les services du développement humain intégral ainsi que la FAO et la représentation du Saint-Siège près la FAO, l'IFAD et l'EPAM. Le thème de cette conférence est « Endiguer la mer, ensemble nous pouvons arrêter les violations des droits humains en mer ». La conférence vise à promouvoir les meilleures conditions de travail des pêcheurs et tous ceux qui travaillent en mer. Dans son mot à l'ouverture de cette rencontre, le cardinal Peter Tuckson, préfet du Leicester pour les services du développement humain intégral, a invité les participants à se faire défenseurs des droits des pêcheurs afin de garantir la protection de leurs familles et d'être assurés qu'ils font un travail digne et qu'ils contribuent au bien-être de notre humanité en exerçant un travail qui non seulement apporte des revenus aux patrons, mais qui nourrit aussi l'humanité. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en Côte d'Ivoire, où l'Église Famille des Dieux a célébré la solennité du Christ Roi dans l'allégresse. Notre correspondant nous fait écho de cette célébration dans quelques diocèses.
Présidant la messe en la cathédrale Saint-André de Yopougon, le père François Koménan Kanga, secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale pour la famille, les pèlerinages et l'apostolat des laïcs, dans son homélie, a invité les fidèles à prendre pour modèle Christ roi de l'univers, modèle d'humilité et de service.
Jésus est roi, mais roi à la manière de Dieu, un roi humble, un roi serviteur, un roi ami des pauvres. Et l'amour et l'humilité sont ses armes de prédilection.
À la chapelle Christ roi de l'univers de Cocody Badon, dans l'archidiocèse d'Abidjan, cette célébration était doublée de sa fête patronale. Le père Philippe Ako, curé de la paroisse Saint-Michel de Mpoto, paroisse dont dépend cette chapelle, a appelé les fidèles à être des femmes et des hommes de vérité.
C'est d'être comme le Christ, des hommes et des femmes de vérité, qui soient vrais dans leur rapport avec Dieu.
Fête patronale également de la paroisse Christ Roi de l'univers de Kong, dans le diocèse de Katula. Présidant la messe en ce double événement, le père curé Benjamin Koné a exhorté ses fidèles à être au service des uns et des autres afin de vivre la royauté de Dieu en eux. À la communauté villageoise de Bozi, dans le diocèse de Daloa, la solennité de Christ Roi de l'univers a été célébrée dans une grande allégresse. Le père Stéphane Niaba, curé de la paroisse Sainte Joséphine Bakita, dans son homélie, a invité ses fidèles à vivre la souveraineté de Dieu afin que soit ouvert sur eux le secret de la royauté du Christ, le secret de la vérité, de l'amour et de la justice. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
L'archidiocèse de Bamenda au Cameroun aura bientôt une maison de retraite pour les prêtres de troisième âge. La cérémonie de la pose de la première pierre de cet édifice a eu lieu sous la présidence de l'archevêque de Bamenda. Le point avec notre correspondante.
Plus de 50 prêtres et une multitude de fidèles se sont rassemblés sur le site de construction de l'édifice qui servira de maison de retraite pour les prêtres du troisième âge de l'archidiocèse de Bamenda. C'est en Tarikon, une localité dépendant de la paroisse de Ngomgam, non loin de la ville de Bamenda. Dans 6 mois exactement, le chantier sera livré selon les déclarations de l'archevêque de Bamenda, Mgr Andrew Nkeya. La maison de retraite aura pour nom « Maison du Sacré-Cœur de Jésus » car, précise Mgr Nkeya, les prêtres qui y habiteront auront passé toute leur vie se consumant d'amour pour le Sacré-Cœur. L'abbé Patrice Tapi est un prêtre de l'archidiocèse de Bamenda.
C'est une grande innovation pour nous et nous sommes très fiers et nous apprécions beaucoup l'archevêque de Bamenda d'avoir pris cette initiative. Que Dieu bénisse ce projet.
2 jours plus tard, après cet événement, Mgr Andrew Nkeya, ses prêtres et ses fidèles ont célébré les 50 ans de sacerdoce ministériel de l'archevêque émérite de Bamenda, Mgr Cornelius Fontem Essoa. Il était entouré de 3 prêtres qui, eux aussi, célébraient 50 ans de prêtrise. Il s'agit des pères Lucas Sanosi du diocèse de Kumbo, incardiné dans l'archidiocèse de Bamenda, Emilio Calcena, piariste, et Brian Bryan, des missionnaires de Saint-Patrick. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La police s'est déployée en force lundi à Kinshasa, la capitale congolaise, pour empêcher la tenue d'une manifestation non autorisée de l'opposition, dont plusieurs militants ont été interpellés, suivant ce récit de Donatien Niembo.
Dès les premières heures de la matinée, les forces de l'ordre avaient bouclé tous les accès au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI, située sur le boulevard du 30 juin, principale artère du centre-ville. Divers partis et mouvements dans les associations de laïcs catholiques et protestants y avaient appelé à un sit-in afin de protester contre la politisation de la CENI et la nomination récente à sa tête d'un président qu'ils jugent trop proche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais à la différence d'une précédente marche organisée avec le même mot d'ordre le 13 novembre, cette manifestation prévue dans le quartier névralgique de la Gambée n'a pas été autorisée par les autorités de Kinshasa, pas plus qu'une autre marche prévue samedi prochain sur les mêmes thèmes. En milieu de matinée, une centaine de personnes décidées à manifester malgré tout se sont regroupées à un des barrages policiers où elles ont été repoussées, certaines d'entre elles étant interpellées par les forces de l'ordre. Nous sommes là pour maintenir l'ordre public. Tous ceux qui ont une activité peuvent passer, mais pas les manifestants, avait auparavant déclaré sur place à la presse le chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, décidé à maintenir les dispositifs policiers toute la journée si nécessaire.
Toujours en République démocratique du Congo, deux comptoirs d'achat et de vente d'or ont été dévalisés dimanche dans la cité minière de Kamituga, dans la partie est, par quatre hommes armés qui ont tué deux militaires dans leur fuite, a-t-on appris lundi auprès du maire de la ville. En vertu d'une nouvelle réglementation sanitaire, les Kenyans devront prouver qu'ils sont entièrement vaccinés contre le Covid-19 pour avoir accès aux services publics, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux, les bars et les restaurants. Donatien Nyembo.
Le Kenya exigera la présentation des certificats de vaccination à partir du 21 décembre et prévoit une campagne d'inoculation massive de 10 jours à partir du 26 novembre. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe, dans un communiqué publié dimanche soir. Le Kenya a indiqué le ministre a constaté une diminution marquée du nombre de cas graves et de décès avec un taux de positivité au cours des 14 derniers jours allant de 0,8% à 2,6%. Depuis le début de la pandémie, la puissance est-africaine a enregistré un total de 254 629 cas et 5325 décès. Dans le cadre des nouvelles mesures, l'accès aux services publics, notamment les hôpitaux, l'éducation, les bureaux des impôts et de l'immigration sera limité aux personnes munies d'une preuve de vaccination. Des restrictions similaires seront imposées dans les lieux publics tels que les parcs nationaux, les réserves naturelles, les hôtels, les bars et les restaurants, tandis que tous les rassemblements en intérieur seront limités à 2/3 de la capacité d'accueil.
C'était Donatien Nyembo. Restons au Kenya. Le chef de la police de la capitale a annoncé lundi qu'une enquête a été ouverte par les autorités kényanes à la suite de la mort d'une responsable d'une fondation de la BBC découverte morte dans sa chambre d'hôtel à Nairobi. Le cadavre de Kate Mitchell, une Britannique travaillant pour BBC Media Action, une fondation du grand média international, a été découvert vendredi peu après le déclenchement d'une alarme dans sa chambre, a expliqué la police. La fenêtre de sa chambre du 8e étage était brisée et le corps d'un homme avec lequel elle avait été vue un peu plus tôt a été retrouvé écrasé au sol au pied de l'hôtel. Le premier ministre libyen par intérim, Abdelhamid Beiba, avait présenté dimanche sa candidature à l'élection présidentielle de fin décembre, censé mettre fin au chaos dans lequel est plongée la Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi il y a 10 ans. M. Beiba a signé des documents et pris des photos de son dossier déposé au siège de la haute commission électorale dimanche à Tripoli, à la veille de la clôture des candidatures, selon des images retransmises en direct par la télévision nationale. Pour la communauté internationale, la tenue des élections est essentielle pour pacifier le pays qui compte des réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique.
Radio Vatican, Français-Afrique, Stanislas Kambashi.
Les autorités soudanaises ont libéré plusieurs hommes politiques détenus depuis les coups d'État militaires du 25 octobre, réalisant ainsi partiellement une clause clé de l'accord conclu dimanche entre les généraux et les premiers ministres réinstallés, Abdallah Hamdok, a indiqué lundi l'un d'eux. « J'ai été libéré tard dimanche soir alors que j'étais détenu à l'isolement depuis le 25 octobre, complètement coupé du monde », a déclaré Omar Al-Daghir, chef du parti du Congrès, une formation qui a rejeté l'accord des dimanches comme de nombreuses organisations de la société civile soudanaise. Deux Allemands ont été arrêtés en Afrique du Sud pour avoir illégalement attrapé et tenté de vendre des reptiles appartenant à des espèces menacées, a annoncé dimanche soir les ministres de l'Environnement. Leur interpellation est le résultat d'une opération de recouvrement des reptiles à laquelle ont collaboré plusieurs polices, parcs nationaux et responsables publics de l'environnement, souligne le ministère. Les autorités tunisiennes ont annoncé dimanche avoir procédé la veille à l'interpellation de plus de 200 migrants qui cherchaient à atteindre les côtes italiennes lors de 9 opérations différentes. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, des unités des régions nord, sud et centre ont réussi à contrecarrer 9 tentatives de traversée en mer pendant la nuit du 20 au 21 novembre, a annoncé les porte-parole de la garde nationale Houssem Eddin Djebabli. Selon la garde nationale qui a réalisé des interceptions en mer et sur la côte, les migrants secourus étaient au nombre de 223 et provenaient des différents pays africains, dont 11 tunisiens. Françoise Niamia nous présente le magazine du jour.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé porte sur les défis liés à la prévention et aux soins du diabète en Afrique. Selon l'OMS, l'Afrique devrait connaître la plus forte augmentation du nombre de cas de diabète dans le monde. Le nombre de personnes souffrant de cette maladie devrait atteindre 55 millions d'ici 2045, soit une hausse de 134% par rapport à 2021. Le continent présente aussi le taux le plus élevé de personnes ignorant leur statut pour le diabète avec un taux de 70%. Docteur Bernadette Adeile-Catraque, fondatrice et chef de l'exploitation Diabète Africa, une organisation à but non lucratif œuvrant à l'amélioration de la santé des Africains diabétiques, explique les défis liés à la prévention et aux soins du diabète sur le continent. L'un des plus grands défis pour une personne atteinte de diabète de type 1 ou 2 en Afrique est le dépistage, indique Docteur Adeile-Catraque. Les gens ayant du diabète peuvent ignorer leur condition jusqu'à être affectés par des complications sérieuses. Ceci est dû au fait que avoir l'air en bonne santé est différent d'être en bonne santé. Les gens avec un taux excessif de sucre dans le sang, surtout dans le cas du diabète de type 2, peuvent vivre sans connaître des complications pendant longtemps, explique-t-elle. Néanmoins, quand ces complications se manifestent, elles constituent d'énormes problèmes en termes de moyens de subsistance et s'ajoutent au fardeau pesant sur des systèmes de santé déjà sous pression. La cécité, l'amputation, les urgences cardiaques ne sont pas des complications légères. Dans beaucoup d'endroits sur le continent, ce défi est aggravé par le manque de structure des dépistages ou de formation des personnels de santé qui leur permettrait d'identifier les risques de façon précoce. Plutôt le diabète de type 2 ou des prédiabètes sont diagnostiqués et traités, mieux c'est pour une personne et pour la communauté dans son ensemble, a encore indiqué Dr Adeile-Catraque. Le coût et l'accès aux médicaments sont bien sûr un défi important en Afrique. Nous pouvons ajouter que la gestion des niveaux de glucose dont le sang nécessite de tester la glycémie régulièrement et cela présente des difficultés en soi. Les personnes atteintes de diabète devraient bénéficier d'une formation adéquate sur le sujet, mais aussi être capables de la financer. Comment peut-on attendre des gens de se faire tester régulièrement s'ils doivent choisir entre nourrir leur famille et acheter des bons de tests? C'est encore interrogé Dr Adeile-Catraque. Le diagnostic et le dépistage sont les premiers d'une série de défis allant crescendo. Poursuivant, la fondatrice et chef de l'exploitation Diabète Africa fit savoir que la COVID-19 a sans aucun doute augmenté les risques pour les personnes atteintes de diabète. Les personnes vivant avec le diabète sont plus susceptibles de développer des symptômes sévères de la COVID-19. En République démocratique du Congo, par exemple, L'analyse d'un petit échantillon de 215 personnes décédées de la COVID-19 montre que 30% d'entre elles avaient du diabète. La riposte publique à la pandémie a également eu un impact sur les personnes ayant du diabète. Une réaction initiale à la pandémie a été d'encourager les gens à rester chez eux et à limiter les visites à l'hôpital. Les diabétiques ont aussi choisi de rester à la maison par peur d'attraper le virus. Avec la pandémie se poursuivant en 2021, ceci s'est avéré ne pas être une solution durable, fait remarquer Dr Adeyile Katrak. Parlons de la gestion et des innovations de la part des États. Pour Dr Bernadette Adeyile Katrak, il est difficile de s'intéresser au diabète en l'isolant du reste et de se demander comment faire plus avec moins. Des soins de santé adaptés nécessitent un niveau de base de ressources et étant donné leur impact sur le système en général, les maladies non transmissibles telles que le diabète restent largement sous-financées. C'est regrettable parce qu'en gérant la santé dans un contexte de faibles ressources, nous tirerions profit d'actions qui réduisent les complications onéreuses telles que les diagnostics précoces et la prévention du diabète. Les personnes qui séjournent à l'hôpital avec la COVID-19 ont souvent des comorbidités. L'une des plus grandes innovations dans un contexte de ressources limitées serait de changer d'état d'esprit. Imaginez investir pour garder les gens en bonne santé plutôt que de gérer des problèmes. Il y aura toujours des urgences et des opérations onéreuses qui ne peuvent pas être évitées. Mais le diabète ne doit pas en être la cause. Ceci implique un effort de formation des professionnels des soins de santé, d'information et de formation des personnes qui peuvent être à risque, de partager une connaissance à une échelle bien plus grande. C'est ce qu'ambitionne Diabète Africa, a fait savoir sa fondatrice.
Technologie, c'est notre rubrique du jour. Marie-Josée Mwando, Boisboilo.
Commençons notre rubrique sur la technologie par la République démocratique du Congo, où les germes d'une industrie de batteries électriques et un marché des véhicules électriques et d'énergie propre se dessinent. Ce projet est au cœur du DRC Africa Business Forum que le gouvernement de la République démocratique du Congo, en collaboration notamment avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, organise les 24 et 25 novembre autour du thème « Développer une chaîne de valeur industrielle autour de l'industrie des batteries électriques et un marché des véhicules électriques et d'énergie propre ». L'un des principaux objectifs de l'événement est d'aider à changer le sort des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en ajoutant plus de valeur à leurs ressources minières utilisées pour les batteries, notamment le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite. L'ambition d'éliminer totalement les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 en fait une tâche urgente. À Mossoul, un restaurant et ses serveurs robots propulsent les clients vers le futur grâce à une technologie montée en partie dans cette ville d'Irak, ravagé par la guerre. Dans ce restaurant, tout est technologique, même les 15 tables numériques dont la surface tactile permet de consulter le menu et de passer la commande. Elles sont aussi munies des chargeurs sans fil pour les téléphones. C'est une équipe de l'Université de Mossoul, de la faculté de mécatronique, une discipline alliant mécanique, électronique, informatique et nouvelles technologies, qui a mené à bien la programmation, la mise en place d'un réseau électronique et d'un serveur. Mais les machines n'ont pas totalement remplacé l'homme. 4 jeunes serveurs s'activent en salle, déposant sur la table les plats du plateau du robot. Des chercheurs japonais ont reproduit à l'identique une fresque bouddhiste détruite en 2001 par les talibans à Bamiyan en Afghanistan, en utilisant un mélange de techniques traditionnelles et numériques, espérant ainsi préserver et transmettre l'esprit de cette œuvre aux générations futures. La peinture originale sur le plafond d'une grotte près des célèbres statues représentait un bodhisattva bleu, un disciple de Bouddha qui retarde son accession au nirvana pour aider les êtres humains. Longue de 6 mètres et haute de 3 mètres, sa copie en taille réelle a été qualifiée de super clone par l'équipe de reproduction de l'Université des Arts de Tokyo. L'équipe a traité numériquement une centaine de photos de la fresque originale prise par des archéologues japonais avant sa destruction afin de créer un modèle informatique de sa surface. Puis, ces données ont été introduites dans une machine qui a gravé la forme exacte dans un bloc de polystyrène. Une équipe d'artistes a ensuite achevé la copie en appliquant une peinture traditionnelle d'un bleu profond, la couleur lapis lazuli, similaire à celle de la fresque d'origine. Avec les techniques actuelles de reconstitution, toute destruction est vide de sens, car nous pouvons recréer les œuvres presque à l'infini, déclare le groupe des chercheurs. Le dog phone a été inventé par Ilyena Irsky-Douglas, spécialiste de l'interaction animal-ordinateur à l'Université de Glasgow en Écosse, qui cherche à améliorer la vie des animaux grâce à la technologie. Le système consiste en une balle équipée d'un accéléromètre qui, quand elle est secouée par le chien, déclenche un appel vidéo vers son propriétaire via un ordinateur portable relié à l'appareil. Le maître peut aussi appeler son animal qui est libre d'ignorer l'appel ou d'y répondre. Les robots qui sillonnent le site de l'exposition universelle de Dubaï aux Émirats arabes unis laissent présager une nouvelle ère dans le Golfe où des villes futuristes fondées sur l'intelligence artificielle voit le jour. Le site de l'Expo 2020 est en soi une ville du futur et va rester une plateforme pour le développement des nouvelles technologies, avait indiqué la responsable de l'événement avant son ouverture en octobre. Des robots y accueillent les visiteurs et peuvent enregistrer leurs commandes de restauration.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que prend fin notre programme aujourd'hui. Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes.
Shoshuloza, 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 Sh